Deuxième partie. Ils étaient assis un soir en silence, plongés dans de douloureuses réflexions dont ils voulaient s'épargner l'amertume l'un à l'autre en les taisant, lorsque le docteur Fresnel, ancien camarade de classe du comte et qui avait longtemps voyagé en Orient, entra dans la chambre. Les deux amis s'embrassèrent plutôt avec tristesse qu'avec joie. Ils étaient tous deux partis dans la vie avec les mêmes espérances, et le comte paraissait n'avoir plus que bien peu de temps à y rester. Fresnel l'interrogea en connaisseur sur toutes les circonstances de sa maladie. Puis il se leva et lui dit « Ami, vous êtes entre les mains d'une puissante magicienne qui mange les cœurs. Peut-être est-il encore possible de vous sauver ?» Le vicomte avait bien entendu parler de douleur qui ronge le cœur, mais jamais de magicienne qui le mangeasse. Il pensa que son ami s'était imaginé quelque chose d'extraordinaire, d'autant plus que l'esprit du siècle ne portait pas à croire à la magie. Mais le docteur lui affirma que cette science était très cultivée en Orient, surtout pour se venger des infidélités, mais que l'enchanteresse avait besoin pour réussir de posséder quelques souvenirs de l'infidèle venant de sa rivale. Le comte fut stupéfait. Il avoua à sa femme ce qui lui avait toujours caché, la perte de l'habit que ses larmes avaient rendu sacré. La comtesse soupira et le docteur s'écria « Ami, mais vous êtes sauvé si votre pensée est maintenant d'être fidèle à votre femme et si la sorcière est jalouse à la mort. Je vais lui chanter un air qui lui fera craquer les membres en mesure. » Il leur dit au revoir et les quitta fort étonnés. Fresnel, en effet, avait étudié avec toute la curiosité d'un savant les sciences mystérieuses aussi bien que les secrets de fabrication qui donnent dans certaines branches une supériorité unique à l'Orient. Il les avait approfondies avec une rare application. Il écrivit une lettre pleine d'habileté à Méluc, qui depuis son malheureux début ne recevait personne et s'occupait à orner son hôtel avec un luxe extrême. Il s'introduisit chez elle sans difficulté. Et elle reconnut bien que c'était un maître en plusieurs sciences. Lorsqu'il arriva, il la trouva en proie à un abattement effrayant. Elle commença par lui demander s'il était capable d'opérer quelques transformations. Fresnel lui montra une chenille qui se trouvait sur un grenadier et lui dit qu'avec un baume de sa composition, il allait la changer en papillon dans l'espace de 5 minutes. En effet, la transformation de la chenille en chrysalide dura à peine 1 minute. Pendant le reste du temps, elle ne cessa de s'agiter, puis enfin, au bout de 5 minutes, on vit s'échapper un papillon aux couleurs variées qui vint se poser sur la tête de Méluc et se mit à agiter ses ailes, qu'on aurait dit un assemblage de pierres fines. Mais dans le même moment, un des canaris de Méluc, qui s'était niché dans sa gorge, vint saisir le papillon. La merveille du docteur était anéantie. Fresnel, piqué, l'invita à lui faire voir ce qu'elle savait, puisqu'elle traitait ainsi son ouvrage. Il arracha une grenade à l'arbre, la mit sur la table, et demanda avec mépris à Méluc si elle pourrait ôter l'intérieur de ce fruit sans en briser l'enveloppe. Elle le regarda avec hauteur et, secouant la tête, lança sur la grenade son regard qui attachait les cœurs et la lui tendit intacte. Il la coupa en deux et trouva le fruit vide. « Bien, dit-il, mais qui pourrait la remplir de nouveau serait encore plus puissant. » Elle mit dans sa bouche un pépin de la grenade, le replaça ensuite dans l'enveloppe vide, le pressa sur son cœur, et en quelques minutes, le fruit était revenu à son état normal. Vous comprenez facilement que Fresnel en était arrivé à ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il s'était assuré de l'étendue de sa puissance. Tout à coup, changeant de visage et de voix, il s'écria avec force « Allô, allô, sorcière ! Les messagers du tribunal sont déjà à ta porte. Mais comment t'es-tu laissé prendre ainsi ?» Allez, allô, allô, suis-moi. Elle pâlit, mais sans se déconcerter, et le menaça de toute son habileté. Ses oiseaux volaient de tous côtés en poussant des cris d'effroi. Les muscles de son visage s'agitaient en tous sens, et sa peau devenait de toutes les couleurs comme un feu chinois. Fresnel évita avec soin de rencontrer son regard. Lorsqu'elle vit ses menaces impuissantes, elle en vint aux prières. Fresnel restait calme et froid devant elle. Enfin, il lui déclara qu'elle serait libre si elle voulait rendre à son ami le cœur qu'elle lui avait enlevé par son regard, aidé par la possession de l'habit bleu, et qu'elle ne sauverait sa vie qu'à cette condition. En entendant dépeindre le malheur de son amie, elle fondit en larmes. Elle pensa que puisqu'on avait recours à elle, il devait être bien malade et qu'il était peut-être trop tard pour le sauver. Elle espérait chaque jour recevoir la nouvelle de sa mort pour se débarrasser à son tour de cette vie qu'il avait empoisonnée. Ah ! S'écria-t-elle, il est sûrement trop tard. Dans ma fureur, dans ma jalousie, j'ai trop profondément rongé son cœur. Cependant, j'espère encore pouvoir le faire rentrer dans son corps. À ces mots, elle tira un rideau et Fresnel vit avec étonnement le mannequin auquel Meluc avait su donner le visage, l'aspect et le teint du comte. Il était beau comme à ses meilleurs jours. Ce mannequin portait encore l'habit bleu du comte. Il était resté les bras croisés. Un léger coup frappé par Meluc détacha les bras de la statue. Elle retira promptement l'habit, regarda attentivement dans une cavité située à la place du cœur et dit au docteur: Allez vite, Fresnel, car dans 1 heure il serait trop tard. Il vit encore, mais de la dernière fibre de son cœur. Mettez de suite cet habit imprégné de larmes sur le corps de votre ami, qui ne le quittait ni jour ni nuit jusqu'à ce qu'il soit entièrement guéri. Mais il ne recouvrera son cœur que si je suis près de lui, car maintenant ce cœur est à moi, en moi. Dites-lui qu'il m'a rendue bien malheureuse, et que je lui demande que de rester toujours auprès de lui. Que sa femme ne se vante pas de l'avoir sauvée. Je vous le répète, c'est en moi qu'est son cœur. Sans moi, il ne pourrait pas vivre, il ne vivra pas plus longtemps que moi. Fresnel ne crut de tout cela que ce qu'il voulut bien en croire. Cependant, il courut avec l'habit chez le comte, et à la vue de ce souvenir qu'il avait cru perdu, Saint-Trait sentit renaître une lueur d'espérance. Lorsqu'il l'endossa, il fut effrayé de voir comme il flottait sur son corps amaigri, tandis qu'autrefois il lui collait si bien. À mesure que les heures avançaient, il se portait sensiblement mieux. Sans que Fréhel le lui eût dit, il ne voulut quitter l'habit ni le jour ni la nuit. Mathilde en était fière. N'était-ce pas là l'éloge de son amour? Mais il lui manquait son cœur. Il ne sentait rien remis en lui et il lui semblait avoir un vide à la place où autrefois palpitaient de si nobles passions. Enfin, après avoir ainsi vécu pendant 1 mois environ, Fresnel leur avoua ce que Méluc leur avait dit. Il les supplia de recevoir dans leur maison cette femme malheureuse mais puissante dont dépendait leur avenir. Le comte pria sa femme de décider. Elle n'hésita pas longtemps. Elle alla trouver elle-même Méluc et la pria de considérer la maison comme la sienne, et d'y venir habiter toujours comme la plus proche parente de son mari, dont la vie était entre ses mains. Pendant qu'elle parlait, Méluc examinait avec une bienveillance surprenante les traits doux et ouverts de la comtesse. Elle admirait la noblesse de cet amour qui sacrifiait jusqu'à sa jalousie et se sentit prise d'une sincère compassion pour cette femme. Mais son dessein était arrêté. Elle monta dans la voiture de la comtesse et toutes deux entrèrent en même temps dans la chambre du comte. Ils s'étaient assoupis sur un livre. À la vue de Méluc, il poussa un cri. Il sentit que dans cet instant, le vide de son cœur se remplissait. Le monde lui parut rajeunir. Son ardeur, la vivacité de ses pensées, renaissaient en lui. Il venait de se réconcilier avec le sort, et l'incompréhensible malheur dont il avait été la victime lui rendait la vie encore plus précieuse. À partir de ce jour, Méluc, au grand étonnement de toute la ville, vécut dans la maison du comte, qui partit aussitôt avec tout son monde pour une campagne à lui, située dans les environs de Marseille, et où ils vécurent plus tranquillement qu'à la ville. Fréhel voyait avec joie le bonheur qu'il avait préparé et faisait souvent sentir à Méluc tout ce qu'on devait à son entremise. Méluc pardonnait à la vanité du docteur et cherchait même à se l'attacher, à s'en faire un discret adorateur. Mais l'esprit du médecin n'avait pas le calme qui convient à une liaison paisible et durable. Un jour, il arriva chez elle à l'improviste, et tout hors d'haleine, lui demanda si elle n'avait pas quelques commissions pour son pays, où il allait faire un nouveau voyage d'exploration. Mais tout l'intérêt qu'elle portait auparavant aux sciences occultes qu'on y cultive avait disparu depuis que son désir était satisfait. On ne lui répondit que rien ne la rattachait plus à l'Orient, excepté le souvenir affreux d'une émeute soulevée par un ennemi de l'émir de son père et qui avait ruiné sa maison et sa famille. « Si vous n'avez rien à me demander, me commander, lui demanda Fresnel. Je ferai cependant l'impossible pour vous, ordonnez ce que vous voudrez, ajouta-t-il avec vivacité. » Méluc le regarda fixement et lui répondit « Maintenant vous voulez que je vous ordonne quelque chose ? Et il viendra un temps où vous ne pourrez m'accorder la moindre chose que je vous demanderai. » Fresnel la blâma amicalement de douter ainsi de lui, mais elle voyait que ce moment n'était pas éloigné. Il prit congé de son ami avec cette persuasion commune à tous les hommes qu'il ne faut pas croire aux prédictions, et partit en promettant un châle à la comtesse et au comte des graines de fleurs rares. La vie quotidienne des trois associés se passait tranquillement à la campagne, régulière, sans être uniforme. Méluc s'occupait des soins du ménage, c'était une tâche toute neuve pour elle, mais elle s'en tirait encore mieux que Mathilde, qui n'avait jamais appris à connaître les détails intimes et les besoins de la vie. Les gens de la maison se soumirent bien vite à ce coup d'œil rapide et sûr qui savait si bien mettre l'ordre dans toutes choses. En même temps, elle surveillait les enfants de la comtesse, qui avait non seulement une remarquable ressemblance, mais aussi une sympathie marquée avec elle, et cela dès le moment de leur naissance. Souvent, Méluc se réjouissait en plaisantant d'avoir le bonheur d'être mère, sans avoir éprouvé les douleurs qui, depuis le premier péché, accompagnent les joies de la maternité. Et Mathilde trouvait les yeux orientaux et les longs cils de ses enfants si séduisants qu'elle n'essayait pas de chercher à quelle cause il les devait, et aimait son ami dans la personne de ses enfants. Le terrible mannequin qui avait eu une si grande influence sur cette famille était relégué avec d'autres objets du même genre dans un grenier du château. Les dimanches, Méluc le montrait aux enfants pour les récompenser lorsqu'ils s'étaient bien conduits dans la semaine. Elle les mettait chacun à leur tour dans les bras du mannequin, qui les berçait doucement, et cela ne paraissait pas plus étonnant aux enfants que les 1000 objets qu'ils voyaient chaque jour, par la raison que tous étaient nouveaux pour eux. Nous voudrions bien que cette anecdote se terminât sur ce tableau plein d'innocence et de calme, mais l'histoire ne se contente pas de raconter le bonheur. 8 ans environ s'étaient passés au sein de cette vie tranquille, avant que le désir de tout renouveler dans le pays, excité par les caprices de quelques écrivains, ne vint détourner le peuple de la voie qu'il suivait depuis si longtemps et ne mit les bons citoyens à la merci des plus misérables. Ces nouvelles espérances avaient ému le comte en même temps qu'elles avaient ramené Fresnel à Marseille. Ils s'y rencontrèrent et un jour, en compagnie de Mathilde et de Méluc, ils allèrent au port, où les matelots écoutaient avec surprise les nouveaux chants de liberté que pendant leur absence leurs compatriotes avaient composés. C'était un beau moment où les intérêts particuliers s'effaçaient devant l'intérêt commun. Le comte et la comtesse, loin de regretter leurs privilèges, se réjouissaient de voir régner l'égalité. Jusqu'à présent, disait le comte, l'histoire de la France n'a été que l'histoire de la noblesse qu'il avait défendue et agrandie en payant de son sang. Maintenant, il sort des héros de toutes les maisons, et nous allons avoir l'histoire d'un peuple. Je connais les hommes qui sont à la tête de la France. Ils ne veulent que le bien, et ils trouveront dans toutes les provinces des honnêtes gens pour les seconder. La comtesse tournait en ridicule ses titres de noblesse. Elle en rougissait et souhaitait qu'un « tu et toi » universel unit tous les hommes. Fresnel ne connaissait nullement la France. Il en vivait toujours trop éloigné pour pouvoir appliquer à son pays son esprit d'observateur. Les écrits du siècle lui avaient fait un portrait moral du peuple d'après lequel rien n'était plus facile que d'arriver à ce résultat, but de toute la philosophie, le règne de la raison. Mais Luc s'était tu longtemps et avait laissé exposer son système. Enfin, elle prit la parole et s'écria avec une vivacité inaccoutumée. Le règne de la raison, mais comment la raison pourrait-elle en un instant s'établir dans le monde, lorsque même dans les siècles les plus vertueux, les mieux remplis, elle ne s'est montrée qu'à de rares intervalles et au dernier moment, en étrangère, en fugitive. Et alors elle a établi les différents degrés de la société. Réfléchissez combien les distinctions entre les hommes sont nécessaires. Et du reste, que peut faire la raison? Quel résultat peut-elle amener lorsque les hommes qui la recherchent n'aboutissent à rien et ne font que spéculer et se contredire? Ah, oh, je vous le dis, les amis de la raison, laissons abuser de leur système pour mettre non seulement en parole, mais encore en action les choses les plus opposées à la raison, et au nom de cette dernière, on se permettra tout ce qu'elle défend. Fresnel la regarda avec étonnement et la pria de ne pas parler si haut parce que les passants pourraient l'entendre. Mais elle continua sans baisser la voix. « Voyez ces matelots, ils quittent leur ouvrage pour venir écouter, les mains pleines encore de goudron, les chants et les discours patriotiques, tandis que le navire les attend pour partir. Bientôt toute la vie se passera dans ces vains bavardages. Lorsqu'un lundi « J'ai faim », tous s'écrient comme lui « Nous avons faim », sans regarder la terre et la mer qui leur offrent le moyen d'apaiser cette faim. Voyez ces vaisseaux aux pavillons de mille couleurs qui reviennent d'un heureux voyage. Ils iront pourrir, emprisonnés dans l'eau douce pour laquelle ils n'ont pas été construits. Sur les grandes routes, au lieu des employés du roi qui les surveillaient, ce ne seront plus que des nuées de brigands qui rançonneront les voyageurs. Mais je ne cite là que les moindres mots. Mais puisque vous savez dans tant de choses, dites donc tout, s'écria Fresnel, surpris. Mais le sang des hommes qui auront voulu amener le règne de la raison coulera par l'ordre de cette raison même. Le sang du roi, ingrat vers la noblesse qui a élevé son trône, le sang de la noblesse qui ne saura pas s'unir avec le clergé, le sang de notre comte, l'homme que j'ai le plus aimé. Et vous, dit Fresnel, moi aussi je mourrai après avoir préparé le comte à mourir. Et moi, reprit Fresnel, que pourrais-je vous sauver tous les deux? Non, répondit Meluc en détournant les yeux. Vous serez obligé d'indiquer le lieu de notre mort et vous ne pourrez vous en sauver. Fresnel se mit à rire. Mais pourquoi, nouvelle poétesse, ne vous réfugiez-vous pas dans un couvent puisque vous savez tout cela d'avance? Pourquoi? S'écria-t-elle. Parce que toutes ces pieuses âmes seront déshonorées par les prêtres du culte de la raison. Le comte finit par perdre patience. Il saisit violemment Méluc par la main et la ramena promptement à la maison. Une heure après, elle ne se souvenait plus de ce qu'elle avait dit. Le comte garda une profonde impression de ses révélations qui lui montrait les choses sous un tout autre aspect. Fresnel, au contraire, aveugle théoricien, traitait ses prédictions de bavardage. Tranquille pour toutes ses espérances, il courut à Paris, où son habileté et son enthousiasme le firent bientôt remarquer. L'existence brûlante de la ville et les luttes des partis finirent par fausser complètement son jugement et lui faire perdre tout son sang-froid. Le comte vit bientôt, dans la province, les choses se présentaient d'une manière plus effrayante encore que ne l'avait prédit Méluc. Il vit les méchants unis et les bons, comme lui, manquant de décision et d'impulsion. Beaucoup de nobles émigraient, ce qui excitait encore la haine contre ceux qui restaient. Cintré n'avait pas de confiance en l'étranger. Pour lui, la France, c'était le monde. Et du reste, il pensait être à l'abri, lui qui avait distribué presque tout son bien aux pauvres du pays. Mais ce ne sont pas ces pauvres gens qui fomentent les violentes révolutions. Il y a une classe moyenne qui, grandissant au-delà de ses limites, ne peut atteindre des régions plus élevées qu'en déplaçant violemment les rangs de la fortune et de la noblesse. De petits fermiers aisés, qui avaient fini par se considérer comme propriétaires, et des propriétaires endettés, unis ensemble, et en relation avec les villes, répandaient la discorde et soulevaient les masses. Fresnel était arrivé de Paris avec la mission de diriger le mouvement dans le Midi. Mais avant qu'il arrivât à Marseille, les habitants du pays, avec leur nature ardente, avaient déjà appris à se diriger eux-mêmes. On avait décidé à quel parti on se rallierait, et Fresnel rencontra quelque opposition. Saint-Luc, qui, depuis que nous l'avons quitté, s'était fait fermer à cause de ses mauvais coups et surtout de sa mauvaise foi au jeu, la société des chevaliers de Malte, et par conséquent celle de la noblesse, était un des orateurs populaires les plus aimés. Assez d'esprit pour déposer tout sentiment de bonté, assez peu d'honneur, assez d'insouciance pour ne pas s'effrayer des maux qu'il pouvait causer, sa vie aventureuse lui donnait la facilité d'apprendre de parler la langue et les sentiments de la populace. Haineux contre la noblesse dont il faisait partie et d'où il était repoussé de tous côtés, il excitait ses auditeurs à l'anéantir. Lorsqu'une fois le chemin effrayé dans une telle direction, lorsque la route est marquée par le sang, les hommes s'y précipitent comme des buveurs qui sentent bien qu'ils ont bu plus qu'il ne faut, mais qui n'en boivent que davantage, parce qu'ils ne sont pas sobres et ne désirent pas l'être en cessant de boire. Et lorsque, même contre ses convictions, on autorise un acte d'injustice, on ne tarde pas à se le faire soi-même. Fresnel, qui d'abord taisait ses opinions de peur de passer pour aristocrate, suivit bientôt l'entraînement de cet émissaire républicain dans la province et prêta son nom aux actes infâmes de Saint-Luc. Quelques meurtres isolés avaient déjà frappé des familles nobles, mais Saint-Tré n'en avait rien appris à cause des nombreux voleurs qui couvraient les routes et interceptaient les communications. Il ne participait à aucun des actes de cette révolution qu'il avait d'abord soutenue et vivait tranquillement retiré chez lui. C'était un soir de juin, mais le comte allait se mettre au lit lorsqu'il aperçut à l'horizon quelques lueurs brillantes qu'il prit pour des feux de la Saint-Jean qu'allument les enfants dans la campagne. Il appela sa femme pour lui faire voir ces illuminations qui éclairaient le ciel. Et elle se leva et, se mettant à la fenêtre, ils aperçurent une forme humaine qui se promenait lentement dans le jardin. Ils l'appelèrent, c'était Méluc qui n'était pas encore couché. Le comte et la comtesse se rhabillèrent et descendirent la retrouver. Un vent paisible circulait dans les jardins embaumés et semblait ne pas vouloir les quitter, tant ils s'y trouvaient bien. Les fontaines répandaient une agréable fraîcheur. Les trois amis se dirigèrent silencieusement vers une butte couverte d'orangers d'où l'on découvrait toute l'étendue du pays. Arrivés au sommet, ils s'assirent sous une treille touffue qui, semblable à un tapis étendu sur leur tête, leur cachaient le ciel et les étoiles, tandis qu'ils voyaient briller les feux devant eux. Méluc se taisait et serrait ses deux amis contre son cœur. Elle aurait pu leur dire ce qu'étaient ces feux, mais pourquoi détruire une douce illusion? Tout change, dit le comte. Les enfants seuls ne changent pas. Ils ont un type, un caractère. Combien de fois n'aurait-on pas dû, dans les assemblées, écouter la voix des enfants plutôt que celle de leur père? La comtesse était inquiète. Elle demanda comment ces lueurs pouvaient être des feux de la Saint-Jean. Elles étaient si grandes et flambaient si haut qu'il fallait que les enfants brûlassent des granges pleines de paille et des quartiers de forêt. Le comte attribua cet effet à la rosée à travers laquelle un feu éloigné paraît plus fort qu'il n'est réellement. Mais lorsqu'ils virent un château voisin qu'ils apercevaient très bien de chez eux prendre feu tout à coup, lorsqu'ils entendirent des cris dans le lointain, le tocsin qui sonnait de tous côtés, lorsqu'ils virent leurs domestiques qui les quittaient, Méluc ne put pour leur cacher et ce que depuis une heure elle n'avait pas le courage de leur dire. Ils étaient condamnés à périr. Ah, Méluc, s'écria la comtesse, pourquoi n'avons-nous pas été avec toi, nous réfugiés dans ton pays? Non, dit le comte. J'aime mieux mourir dans l'ancienne résidence de ma famille que de languir dans l'exil sans pouvoir jeter un regard à ma patrie. Mon sang doit arroser la terre qui m'a nourri. La comtesse fut sur le point de s'évanouir à ces paroles. Les cris sauvages se rapprochaient toujours dans la campagne. Le comte rentra au château avec les deux femmes et leva lui-même le pont-levis. Puis il jeta toutes ses armes dans le fossé, de peur d'être entraîné à répandre le sang de ses concitoyens. À peine avait-il terminé ce sacrifice, il était minuit, qu'une troupe de populace, à demi-ivre, passant par un endroit où le fossé était à sec, entra dans le château par une porte qui leur avait ouverte une servante, et saisit le comte qu'ils emmenèrent à leurs complices assemblés en foule sur la place du village. La servante qui les avait introduits venait d'être renvoyée pour vol par la comtesse. Elle la cherchait pour se venger et débitait sur son compte une foule de mensonges infâmes. Méluc, entendant qu'on cherchait la comtesse, la saisit avec force. Elle était évanouie. La mena dans le grenier retiré où se trouvait le mannequin et pour la dernière fois eut recours à son art. Elle mit la comtesse dans les bras du mannequin qui la serra sur sa poitrine avec une force que nul n'aurait pu vaincre. Méluc ordonna à la comtesse de se taire, autrement elle était morte. Mais cette recommandation était inutile. La comtesse était trop faible pour pouvoir parler ni entendre. La tête couverte du châle de Mathilde, Méluc alla au-devant de la foule qui cherchait la comtesse. Reconnue pour telle par la servante, elle fut également conduite au lieu du supplice. C'était Fresnel qui présidait en proie au plus violent désespoir. Il avait Saint-Luc à son côté. Porter au comte un secours que lui dictait son cœur, c'était aller contre la plus simple prudence et augmenter contre lui la fureur du peuple. Cependant, il profita de l'autorité que lui donnait son nom de commissaire, et comme Saint-Luc s'apprêtait à enfoncer son poignard dans le cœur du comte, Fresnel saisit ce dernier et le sauva pour un instant du moins. Mais rien n'aurait arrêté Saint-Luc s'il n'avait aperçu Méluc à qui l'on avait enlevé le châle et qu'il reconnut aussitôt. « Source de ma honte, lui cria-t-il, cause de mes malheurs. Deux fois en vain j'ai voulu te conquérir alors que j'étais un homme d'honneur. J'ai réussi maintenant que je suis un misérable. Pauvre pigeon, pourquoi es-tu venu me tomber dans les mains pour que je te torde le cou ?» Méluc, sans daigner jeter un regard à l'infâme Saint-Luc, dit à demi-voix Fresnel. « Je ne vous demande pas de me faire vivre une heure de plus, car vous ne pourriez pas prolonger mon existence d'une minute. Mais je vous en supplie, préservez ce château de l'incendie et sauvez une pauvre mère qui est enfermée dans le grenier, pressée entre les bras de la mort. » Elle venait à peine de finir et Fresnel se préparait à la sauver de son propre risque, lorsque Saint-Luc, rendu encore plus furieux par son écrasant mépris, lui enfonça son couteau dans le dos et l'étendit morte à ses pieds. Fresnel vit, mais trop tard, une de ses prédictions accomplies. Il aurait tout fait pour la faire vivre encore une heure, et il n'avait pu lui donner un seul instant. Il voulait la venger sur son bourreau, lorsqu'un nouveau malheur détourna son attention du moment où Meluc recevait le coup mortel. Le comte tombait mort, sans blessure apparente. Les prédictions de Meluc commençaient à se réaliser. Elle avait dit que leurs deux existences étaient inséparablement unies et qu'il ne pourrait vivre plus qu'avec elle. Ce nouvel événement fit réfléchir Fresnel aux dernières paroles de Meluc. Il réunit quelques-uns des principaux habitants du village et leur ordonna au nom du peuple de considérer ce château comme propriété de la nation et de le garantir de toute atteinte. Peut-être cet ordre n'aurait-il pas été respecté si cette foule sauvage, fatiguée des excès de la journée, ne s'était répandue dans les habitations du village pour prendre quelque repos. Fresnel profita de ce moment de calme. Il s'introduisit dans le château, supposant que cette mère dont lui avait parlé Meluc n'était autre que la comtesse. Il voulait la sauver, et après cela, il considérait sa vie comme terminée, puisqu'il venait d'assister à la mort de ses deux amis. Il trouva bientôt le grenier fermé à clé. Il fit sauter la serrure, mais quel fut son effroi lorsqu'il vit, aux premières clartés du jour, la comtesse pressée dans les bras de son mari, qu'un instant auparavant il avait vu mourir. Mais il reconnut bientôt à ses yeux fixes l'image qui avait déjà décidé une fois du sort de cette maison. La comtesse, toujours évanouie, était entre les bras du mannequin. C'était douloureux pour lui de détruire l'image de son ami qu'il n'avait pu sauver en personne de la mort. Cependant, la nécessité était impérieuse. Il se décida à mettre le mannequin en pièces. Mais, de même qu'on ne peut se débarrasser d'un serpent qui vous enlace qu'en exposant sa vie, ainsi Fresnel ne put, malgré toutes ses précautions, éviter de blesser Mathilde. La douleur causée par cette légère blessure la réveilla, et elle dut prendre Fresnel pour un assassin acharné après le comte. Au milieu du péril, une résolution doit être prise sur le champ. Souvent, plus tard, le cœur voudrait revenir sur ce que le danger nous a fait faire, mais la détresse n'a pas le temps d'hésiter. Le désir de sauver ses trois enfants fit oublier à Mathilde de dire un dernier adieu à son mari et à sa noble amie. Elle s'éloigna du château comme si elle quittait Sodome, sans oser regarder derrière elle. Fresnel l'accompagna, la soigna avec un dévouement infatigable, et la conduisit heureusement jusqu'en Suisse, chez des parents aisés qui reçurent l'infortuné les bras ouverts. Depuis le jour du massacre, Fresnel était resté en proie à une sombre tristesse. Un soir, qu'il racontait à Mathilde les détails de cette affreuse journée, il jura qu'il se mépriserait toujours de ne pas s'être fait tuer au lieu de présider à la mort de son ami. La comtesse chercha à le consoler, mais en vain. Lorsqu'elle se fut éloignée, il embrassa tendrement les enfants, leur dit qu'il allait partir pour quelque temps et qu'on ne l'attendit pas pour le dîner, qu'il allait manger le repas qu'il méritait. Il prit ainsi congé d'eux. Mathilde arriva en ce moment. Elle l'entendit avec inquiétude parler de son départ. Elle lui rappela qu'il avait au moins sauvé ses enfants, et que par sa présence il l'avait consolé, qu'elle était inquiète de le voir s'éloigner. Mais tout cela ne put le retenir. Le lendemain, on recueillit le cadavre de Fresnel à une lieue de la maison. Il s'était jeté sur son épée. On trouva à côté de lui un billet. Il disait qu'il s'était fait justice de sa propre main, sur une route publique où passe la joie aussi bien que le malheur, et pour que le souvenir de son sang répandu ne troublât aucun des paisibles habitants de cet heureux pays en coulant sur sa terre. Comment décrire la douleur de la comtesse lorsqu'elle reçut ce dernier coup qui lui rappelait si douloureusement ce qui l'avait déjà frappé dans ses plus tendres affections? La tranquillité était rétablie. Mathilde était rentrée en possession de ses biens avec ses beaux enfants, mais tout cela n'était rien pour elle. Celui qui croit posséder l'univers et celui qui se considère comme n'y possédant rien sont de grands caractères. Mais ce que je puis appeler un admirable sentiment, c'est le sentiment complet du néant à l'égard du monde. Sentiment qu'elle me laissa voir pendant mon séjour auprès d'elle, et tandis que deux de ses enfants étaient à la mort. Le ciel les lui a conservés. Excepté ce sentiment de son néant, elle n'en avait conservé qu'un seul, le respect pour sa terrible Méluque, respect qu'elle manifestait à tout moment et qui la faisait souvent sortir du silence qui régnait dans son cœur. Combien de fois me fit-elle admirer cette âme vraiment orientale, qui préféra rester la prophétesse d'une famille à laquelle sa passion l'avait unie, tandis qu'elle aurait pu devenir la prophétesse de l'Orient et prédire tout le siècle qui se préparait. Fin de Marie Méluque Blainville.